Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons maintenant, Dieu aidant, le dernier traité de la deuxième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Première partie, donc c'était la première partie. Nous avons déjà vu tous ces traités-là. Deuxième partie, la grâce. Donc nous avons vu les fins dernières, les actes humains, les passions, les habitudes, les vertus, les vices, les péchés, les lois. Et maintenant nous allons attaquer le traité sur la grâce. Donc nous en sommes aux questions 109 à 114. Monseigneur Lefebvre nous disait souvent que c'était un des plus beaux traités de la somme théologique. C'est certainement exact. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas un des traités les plus faciles. Il y a une porte qui ouvre ce traité. Et si vous ne voulez pas prendre cette porte, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le traité. Vous allez vous sauver en courant. La porte qui ouvre le traité de la grâce, c'est la porte de l'humilité. Saint Thomas d'Aquin, quand il explique la grâce du bon Dieu, justement nous montre à quel point Dieu fait tout et l'homme est totalement dépendant de Dieu. C'est certainement le traité qui nous fait le mieux comprendre cette chose-là, à savoir que nous sommes dans un état de dépendance totale de Dieu. Le traité de la grâce est un point d'aboutissement de tout un travail théologique au cours des siècles. Beaucoup de saints ont parlé de la grâce. Donc il y a d'autres traités sur la grâce qui ont été faits, mais saint Thomas, je dirais, présente un point d'aboutissement, certainement le plus haut degré de sciences théologiques qu'on a atteint sur ce sujet. Les deux grands saints qui ont beaucoup parlé de la grâce, il y a saint Augustin, donc au début de l'histoire de l'Église, 3e, 4e siècle, puis saint Bernard, au 11e siècle, 10e, 11e siècle, et maintenant saint Thomas d'Aquin, 13e siècle. Alors, nous en sommes donc au début du traité de la grâce, vous l'avez sur le polycopier en page 78. Alors d'abord je m'excuse, j'ai remarqué que sur le polycopier qui est sur le site, c'est le premier polycopier que j'avais fait. Je fais constamment des corrections quand je constate des petites fautes d'orthographe, des fautes de frappe ou des titres qui manquent. Donc j'ai rajouté certains titres. Et ce qui fait que le polycopier que j'ai sous les yeux, sur lequel je travaille, ne correspond pas exactement au niveau des pages avec le polycopier qui est sur le site Dame Marie. Alors dès que je rencontrerai quelqu'un capable de me faire ça, sans doute troisième semaine du mois de novembre, je ferai un changement au niveau du polycopier qui est sur le site pour mettre le même que celui que j'utilise actuellement, si vous n'aurez plus de différence de page. Sur mon polycopier est en page 78. Alors vous arriverez sans doute à vous y retrouver. Il n'y a pratiquement pas de changement au niveau du texte lui-même. C'est vraiment des titres qui ont été changés, mais ça a fait changer la pagination. Donc, saint Thomas commence avec à la page 109, question 109 à 114, donc nous allons attaquer avec la question donc 109 de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, prima secundae, de la nécessité de la grâce. Alors, il y a énormément de choses à dire sur la grâce. C'est certainement un des sujets qui a été l'occasion de beaucoup, beaucoup de débats théologiques sur ce sujet. Soit on suit la théologie de saint Thomas d'Aquin, sur la grâce, qui est une théologie qui nous place une dépendance totale de Dieu. On se rend compte qu'on est vraiment comme un petit bouchon qui flotte à la surface des flots, et c'est le bon Dieu qui nous garde à la surface des flots, et c'est lui qui fait tout. Hein. Il suffit d'avoir la porte ouverte pour que le bon Dieu puisse travailler dans mon âme, et même pour garder la porte de mon âme ouverte à la grâce, ben ça correspond déjà à une grâce du bon Dieu. On se rend compte qu'on peut vraiment plus bouger le petit doigt sans la grâce du bon Dieu. C'est pour cela que, je vous l'ai dit, la vertu fondamentale pour étudier avec paix ce traité, c'est la vertu d'humilité. L'Église catholique autorise le catholique à suivre également la position moliniste, de Molina. Donc c'est une position qu'on expliquera plus tard, qui est également acceptable. Molina, si vous voulez, expliquait la grâce en poussant plus sur la coopération nécessaire de l'homme. Il poussait plus sur l'homme, alors que saint Thomas pousse davantage sur Dieu, Dieu qui fait tout. Et Molina explique plus, travaille plus sur l'homme qui répond à la grâce du bon Dieu. Bon, les deux positions sont acceptables par l'Église. Les autres positions ne sont pas acceptables pour un catholique. C'est deux grandes écoles, soit l'école de Molina, l'école Molini, soit l'école Thomiste, l'école de saint Thomas d'Aquin. Cependant, l'Église catholique, bien qu'elle laisse les prêtres libres, les enseignants dans l'Église catholique libres de prendre la position de saint Thomas, donc les catholiques fidèles et laïcs ont le droit de suivre la position de Molina. Cependant, l'Église catholique a toujours eu une prédilection pour la position de saint Thomas d'Aquin. N'oublions pas que lorsque le pape Saint-Pédis a voulu remettre un petit peu, lutter de façon doctrinale contre le modernisme, une des premières choses qu'il a faites, c'est remettre en valeur l'école thomiste. Donc les thèses thomistes, et une de ces thèses justement, beaucoup de ces thèses sont sur le travail de la grâce, la réponse à la grâce. Et donc il est, je crois, important aujourd'hui, encore une fois, bien qu'on ait droit de suivre l'école moliniste, il est important d'être thomiste. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup frappé, au séminaire, il y avait dans mon année d'études un séminariste qui n'était pas thomiste, il n'est pas trop thomiste, il est plus moliniste. Eh bien, ça se sentait quand on parlait avec lui. Il y a quelques prêtres dans la fraternité Saint-Pédis, quand j'y étais, qui n'étaient pas thomistes. C'était connu qu'ils avaient d'autres maîtres à penser en matière philosophique. Et ça se sentait quand on parlait avec lui. Il manquait quelque chose. Donc, il est beaucoup plus facile, je terminerai par là, il est beaucoup plus facile de garder l'esprit de l'Église en suivant l'école thomiste qu'en suivant une école qui n'est pas une école thomiste. Alors la grâce est un don donc intérieur, surnaturel, qui nous est donné sans aucun mérite de notre part, mais par les mérites de Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit expressément, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On voit très bien dans cette définition classique, définition qu'on trouve dans le catéchisme de Saint-Pédis, aussi dans le catéchisme du Concile de Trente, on voit très bien que Saint Pédis insiste beaucoup justement sur la toute-puissance du bon Dieu. Don intérieur, donc c'est quelque chose qui nous est donné, c'est pas quelque chose qui vient de nous, et qui nous est donné sans aucun mérite de notre part, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans aucun mérite de notre part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas, même pas nous qui ouvrons la porte de notre âme au bon Dieu, c'est le bon Dieu qui nous fait ouvrir la porte. Je ne peux rien faire sans le bon Dieu. Donc le bon Dieu veut rentrer dans mon âme, il me demande à ce que j'ouvre la porte, mais pour ouvrir la porte, j'ai besoin déjà d'une aide divine. Sans l'aide divine, je ne peux rien faire. Alors, il y a beaucoup de façons de diviser la grâce, nous allons expliquer tout cela. Donc la grande division classique, j'y reviendrai bien sûr au cours de ces explications. La grâce divine se divise en ce qu'on appelle grâce habituelle ou grâce actuelle. Donc la grâce habituelle, c'est la grâce qui est un habitus dans notre âme, c'est-à-dire une grâce qui habite de façon régulière, journalière dans notre âme, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la charité, l'habitation dans nos âmes de la Sainte Trinité. Donc c'est un don surnaturel, encore une fois, ça vient du bon Dieu, inhérent à notre âme, qui nous rend juste, enfant adoptif de Dieu et héritier du paradis. Et cette grâce sanctifiante, cette grâce habituelle, cette vertu théologale de charité, nous est donnée par le baptême. Elle est perdue, cette grâce sanctifiante est perdue par le péché mortel, et retrouvée par une bonne confession. Le martyr, ou un acte de contrition parfaite. Donc une bonne confession enlève l'obstacle, ramène la grâce habituelle dans notre âme. Le martyr, ou l'acte de contrition parfaite, qui consiste à regretter ses péchés par pur amour de Dieu, qui est possible même par une âme qui n'a pas encore le baptême d'eau, mais qui a un baptême de désir. Le baptême de désir, ce n'est rien d'autre qu'un acte de contrition parfaite. Donc, le deuxième volet de cette grâce, c'est la grâce actuelle. La grâce habituelle, c'est un don qui est habituel de son nom, qui vit de façon habituelle dans notre âme. Bon, une personne qui est en état de grâce, c'est une personne qui vit dans la grâce sanctifiante. Mais comme je ne peux rien faire sans la grâce du bon Dieu, si je suis en état de péché mortel, j'ai aussi besoin de grâce du bon Dieu. Est-ce qu'il est possible? On viendra bien sûr là-dessus. Il faut bien expliquer tout cela à fond. Si j'ai commis un péché mortel, j'ai perdu la grâce sanctifiante. La grâce habituelle n'est plus en mon âme. Est-ce que je peux regretter le péché que je viens de commettre? Est-ce que je peux regretter d'avoir perdu la grâce habituelle sans l'aide du bon Dieu? Réponse impossible. Est-ce que je peux aller me confesser, regretter, avoir un tel regret de mes péchés que je puisse avoir le minimum pour pouvoir me confesser, savoir le regret de mes péchés, l'accuser mes péchés avec une ferme résolution de ne plus recommencer? Est-ce que je peux avoir ce regret intime de mes péchés sans la grâce du bon Dieu? Impossible. Cependant, comme je ne suis plus en état de grâce, je n'ai plus la grâce habituelle, donc Dieu dans ces cas-là est obligé de donner à des hommes qui sont en état de péché mortel pour qu'ils puissent aller se confesser et regretter leur péché, une autre grâce qu'on appelle la grâce actuelle, donc est un don surnaturel qui illumine notre esprit, qui meut et fortifie notre volonté pour que nous fassions le bien et que nous évitions le mal. Donc Dieu, si vous voulez, nous donne sa grâce par la prière et les sacrements. Si notre volonté est droite, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc voilà ce que, un peu la grande ligne de division pour la grâce. C'est ce qu'il y a dans les catéchismes de base, si vous voulez. La grâce du bon Dieu, donc, chose importante, c'est un don surnaturel qui nous est donné gratuitement. Bon. Soit c'est une grâce habituelle, c'est-à-dire qui est normalement, de façon permanente dans mon âme, tant que je n'ai pas commis de péché mortel, la grâce sanctifiante, ou grâce habituelle, ou grâce de la charité. Tout ça, c'est la même chose. Ou une grâce actuelle, qui est une petite grâce, si vous voulez, qui en passant, pour nous aider dans un moment particulier de ma vie où j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire du bon Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce actuelle. Alors, ce traité de la grâce a une importance fondamentale parce qu'on peut dire que une des grandes raisons causes du modernisme dans l'Église, justement, c'est la perte de l'esprit d'Église. On perd l'esprit d'Église, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a perdu l'esprit thomiste, d'où la nécessité d'étudier la somme de saint Thomas d'Aquin pour garder l'esprit d'Église. Je viens de vous expliquer comment il était important de penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. C'est pour cela que même dans le domaine où nous sommes libres, comme de suivre l'explication de saint Thomas ou de Molina sur la grâce sanctifiante, il vaut toujours mieux suivre ce que l'Église a toujours enseigné de préférence. Vous avez le droit de suivre Molina, cependant il est mieux de suivre, je crois plus parfait, de suivre saint Thomas d'Aquin qui est plus... comment dire, qui nous donne plus l'esprit d'Église. Parce que saint Thomas, encore une fois, lorsque le pape Saint-Pélis a lutté contre le modernisme, a condamné le modernisme en 1907 avec Pascendi Dominici Gregis, septembre 1907, quand il donne les moyens de lutter contre le modernisme, un des premiers moyens, c'est le retour à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Repenser tel que saint Thomas d'Aquin a toujours pensé. Or, c'est un secret pour personne que depuis la mort du pape Pie XII en 1958, tous les papes de l'Église de Vatican II ont tous un point commun, ils ont tous abandonné saint Thomas d'Aquin. Ils ont tous abandonné saint Thomas d'Aquin et ils sont imprégnés, impressionnés, manipulés en quelque sorte par les philosophies modernes. La théologie moderne, surtout les théologies qui suivent les grandes idées d'Emmanuel Kant, donc le subjectivisme, par lequel chacun fait sa propre volonté, sa propre vérité. En gros, c'est ça. Je refuse de me soumettre à une vérité qui existe en dehors de moi. Je fais ma propre vérité, ce qu'on appelle le subjectivisme. Le grand responsable de cette monstruosité philosophique, c'est Emmanuel Kant. Il est de mourir en 1802-1804, début du 19e siècle. Donc, mais Emmanuel Kant a une influence considérable, justement, sans le vouloir d'ailleurs, une influence considérable sur le Vatican II, parce que Vatican II va arriver après, mais va reprendre en matière de philosophie toutes les idées d'Emmanuel Kant, le subjectivisme d'Emmanuel Kant, et ça va donner la liberté religieuse, ça va donner l'écuménisme, ça va donner la collégialité, donc l'application dans l'Église, malheureusement, des principes faux de la franc-maçonnerie de 1717, à savoir liberté, égalité, fraternité. L'égalité va donner la liberté religieuse, la collégialité, l'égalité va donner l'écuménisme, et la collégialité va donner la fraternité, et l'écuménisme va donner le troisième point. Et donc on retrouve ces trois choses, liberté, égalité, fraternité, traduit dans l'Église de Vatican II, on revient là-dessus bien sûr plusieurs fois, par écuménisme, collégialité, liberté de conscience, liberté religieuse. Alors, voyons un petit peu les choses de façon plus claire. Donc, je vous ai dit que quand on perd la philosophie de saint Thomas d'Aquin, on perd la grâce du bon Dieu, on perd surtout l'esprit d'Église. Et surtout dans le domaine de la grâce, il est capital de penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Donc, la grâce de Dieu, je vous l'ai dit dans la définition que nous avons déjà vue ensemble, la grâce du bon Dieu est un don intérieur, surnaturel, quelque chose qui nous est donné de l'extérieur par le bon Dieu, par pure gratuité, par pure bonté de sa part, si vous voulez. Donc, la grâce du bon Dieu est quelque chose qui se rajoute à la nature humaine, et donc c'est quelque chose de surnaturel. Une des racines du modernisme, certainement la plus dangereuse, c'est de croire que la grâce de Dieu est naturelle à l'homme. Et c'est à la base de toutes les fausses philosophies, surtout qui ont imprégné notamment Jean-Paul II, Benoît XVI et après, bien sûr, Bergoglio, François actuellement. Donc tous les papes de l'Église de Vatican II ont été imprégnés par cette fausse idée. Il faut comprendre la dangerosité de cette erreur, cette monstruosité philosophique. Si je dis que la grâce naturelle, la grâce de Dieu est naturelle à l'homme, ça veut dire qu'elle fait partie de la nature humaine, tout simplement. Si la grâce du bon Dieu est une partie de notre nature humaine, on ne peut pas la perdre. De même qu'un homme ne peut pas se promener dans la rue en ayant oublié son âme dans son bureau, c'est pas possible. Il a son âme avec lui, il est un composé d'âme et de corps, on ne peut pas faire autrement. Tous les hommes ont tous une âme, et tous les hommes ont tous un corps. D'accord ? Sauf s'ils sont dans un cimetière, où à ce moment-là, il y a une séparation entre corps et l'âme, ce qu'on appelle un cadavre. Mais, si je dis que la grâce est naturelle à l'homme, comme la grâce de Dieu, c'est la grâce, d'abord la grâce habituelle, si je dis que la grâce habituelle, la grâce sanctifiante, la vertu de charité, la vertu théologale de charité, l'habitation dans mon âme de la Sainte Trinité est une partie naturelle de mon organisme spirituel, ça veut dire que tous les hommes ont toujours la grâce du bon Dieu. Or, la grâce de Dieu, la grâce habituelle de Dieu, est nécessaire au salut. C'est un syllogisme, un sophisme tout simple qui consiste à dire la grâce de Dieu est nécessaire au salut. Or, tous les hommes ont la grâce du bon Dieu par nature, puisque la grâce est naturelle à l'homme. Conclusion, tous les hommes se sauvent. Et là, c'est le saut dans le modernisme. Pour cela, il est très important d'avoir les idées claires au niveau de la grâce. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. La grâce de Dieu est quelque chose qui se rajoute à l'homme. Donc, attention à avoir les idées claires là-dessus, parce que sinon, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et il y a eu effectivement dans l'histoire des hérétiques, l'histoire des opposants à la doctrine catholique. Donc beaucoup d'hérésies, entre autres sur ce sujet-là. Donc Saint Augustin, Saint Bernard et Saint Thomas d'Aquin ont organisé la contre-attaque, la lutte pour ramener l'intelligence catholique dans le bon chemin. Encore une fois, on voit une progression très nette dans l'étude théologique. Quand vous étudiez les premiers grands textes théologiques des premiers pères de l'Église, bon, il était évident que chez les premiers pères de l'Église, qui étaient des gens de sainteté, hein, quand vous voyez, je sais pas, un Saint Athanase, un Saint Augustin, un Saint Jérôme, etc., ou un Saint Jean Chrysostome, eh bien, c'était des gens de sainteté. Mais encore une fois, il y a eu une progression après dans l'étude théologique, dans l'explication théologique. Et ça a encore progressé avec Saint Bernard sur la grâce, mais le sommet, c'est vraiment Saint Thomas d'Aquin. Donc, première erreur à éviter, ce qui consiste à dire que la grâce est naturelle à l'homme et que donc tous les hommes se sauvent. Bon. Deuxième erreur, c'est le pélagianisme. On reviendra sur toutes ces choses-là. Pour le moment, je vous donne un petit peu une idée générale de ce qu'est ce traité sur la grâce et puis on reviendra après dans les détails. Le pélagianisme, c'est une erreur, si vous voulez, qui est déjà apparue au début de l'histoire de l'Église. C'est une erreur très importante sur laquelle on reviendra plus tard. Le pélagianisme, c'est une erreur qui consiste à dire, si vous voulez, que l'homme, en gros, on peut simplifier comme ça en disant que l'homme est capable de faire son salut à la force du poignet. Bon, c'est-à-dire que il est capable de travailler par lui-même. Et de faire son salut par lui-même en disant, d'ailleurs, ce que vous allez voir, je vais lutter contre les occasions prochaines de péché, je vais lutter contre mes mauvaises tendances en moi, et je vais me sauver par la force de ma volonté. Et c'est du volontarisme, tout simplement. Hein. C'est du volontarisme, ça mène à l'activisme. Et le pélagianisme avait évidemment été condamné par l'Église, parce que ce pélagianisme, c'est tout simplement fondé, tout simplement quelque chose qui est fondé entièrement sur l'orgueil de l'homme moderne. Je vous ai dit au début de ce cours, que la porte d'entrée au traité de la grâce, pour le traité de la grâce, c'est la vertu d'humilité. Il est évident que le pélagianisme est fondé sur l'orgueil. Alors, comme il a été condamné par l'Église, le démon est revenu par la porte de derrière, avec une demi-hérésie qu'on appelle le semi-pélagianisme, qu'on verra aussi plus tard, le semi-pélagianisme qui consiste à dire, bon ben d'accord, c'est le bon Dieu qui commence par faire le travail au début, puis après c'est l'homme qui prend le relais. C'est encore faux. C'est pas l'homme qui commence par faire le travail au début, puis, je veux dire, ce n'est pas le Dieu qui commence à faire le travail au niveau de la grâce au début, puis ensuite l'homme qui prend le relais à la place du bon Dieu pour ce travail. C'est Dieu qui fait le travail au début, au milieu et à la fin. Et l'homme qui coopère à la toute-puissance de Dieu. C'est pour ça que ce semi-pélagianisme a aussi également été condamné par l'Église. On verra comment toutes ces grandes hérésies, malheureusement, qui ont fait un énormément de dégâts dans l'Église, dans les débuts de l'Église, mais justement ont été, quand justement le bon Dieu a suscité des très grands saints, notamment Saint Augustin, pour lutter contre ces hérésies. Et il y a un lien entre toutes ces hérésies et le manichéisme, qui consiste à dire qu'il y a un Dieu bon, un Dieu de l'esprit, et un Dieu mauvais, un Dieu de la matière. Et on retrouve toutes ces erreurs, par exemple, dans le catharisme, dans l'hérésie des albigeois. Donc tout le rôle de Saint Dominique, justement, pour lutter contre toutes ces hérésies est évident. Et donc il faut avoir l'esprit parfaitement clair à ce niveau, justement, à cause de cela. Une autre erreur sur la grâce, qu'on réexpliquera plus tard, c'est ce qu'on appelle le fidéisme. C'est encore en partie une erreur au niveau de la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu ne détruit pas, attention, on expliquera bien tout ça, la grâce du bon Dieu ne détruit pas notre volonté. Bon, la grâce du bon Dieu ne détruit pas notre intelligence. Elle travaille avec notre intelligence, elle travaille avec notre volonté. On peut, par exemple, prouver l'existence de Dieu simplement en utilisant notre intelligence. On a déjà vu ça au début de la somme théologique de Saint Thomas. Bon. Le fidéisme est donc une hérésie qui consiste à dire que la foi fait tout. C'est l'hérésie inverse, si vous voulez. Soit on tombe dans le pélagianisme qui consiste à dire que c'est moi qui fais tout le travail et le bon Dieu ne fait pas grand-chose, c'est par mes propres forces, la force de mon poignet que j'arrive au ciel. Ça, c'est le pélagianisme. Le fidéisme, ça consiste à dire, bon, ben, je ne peux rien faire du tout, donc c'est le bon Dieu qui fait tout, même au niveau intellectuel, pour me faire découvrir le Dieu. C'est lui qui fait tout le travail. Je ne peux absolument pas découvrir, prouver l'existence de Dieu de façon naturelle. Et ça, c'est faux. C'est faux parce que tous les hommes, même ceux qui n'ont pas la grâce, ont une intelligence. Tous les hommes ont une âme. Dans tous les hommes ont les quatre puissances de l'âme, à savoir l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. Ayant ces quatre puissances de l'âme, tout homme qui a une intelligence a en lui un procédé naturel, un processus naturel qui va lui permettre d'atteindre la grâce du bon, qui va lui permettre de prouver l'existence de Dieu. On n'a pas besoin en soi d'avoir la grâce sanctifiante en nous pour prouver l'existence de Dieu. On peut prouver l'existence de Dieu de façon naturelle, simplement en voyant par exemple l'ordre qui existe dans la nature. Succession des jours et des nuits, succession des saisons, tout ça prouve qu'il y a un grand architecte qui a tout commandé, évidemment. Donc on verra tout ça. Alors, la grâce du bon Dieu, si vous êtes dans nos âmes, doit être bien comprise pour que l'esprit d'église demeure, encore une fois. Quels sont les deux dangers? Deux dangers, pour revenir un petit peu sur ce que je viens d'expliquer, c'est soit de trop pousser sur la puissance divine et d'éliminer le libre arbitre de l'homme, à ce moment l'homme devient un esclave, il ne peut rien faire, bon. Ou au contraire, c'est un peu le fidéisme, ou l'inverse, de trop pousser sur le libre arbitre de l'homme, et d'oublier complètement la toute-puissance du bon Dieu. Et ça, c'est plus le pélagianisme. Donc, il faut garder un équilibre dans ces choses-là. Donc, il est très important donc, de bien comprendre que la grâce est donc, n'est pas quelque chose de naturel. L'âme en nous est quelque chose de naturel. L'intelligence en nous, la volonté en nous, sont des choses naturelles. Tout homme ayant une nature humaine à l'usage de l'intelligence et de sa volonté, tous. Sauf un bébé. Le bébé a une intelligence en puissance qui ne s'est pas encore utilisée. Ça, c'est autre chose, mais il a déjà l'intelligence puisqu'il est homme. Toute âme humaine a en elle-même les quatre puissances, intelligence, volonté, irascible, concupiscible. On peut dire que si une âme n'a pas en elle ces quatre puissances, ce n'est pas une âme humaine. Bon. On peut dire que si un homme n'a pas l'intelligence, si un homme n'a pas d'âme, c'est que c'est pas un homme, tout simplement. Un cheval, il n'y a pas d'âme. Un chien n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme, plus exactement, on verra ça plus tard, mais il n'a pas d'âme intellectuelle. Il a une âme sensitive, une âme végétative, mais il n'a pas d'âme raisonnable, pas d'âme intellectuelle. En français, quand on parle d'âme, on vise surtout l'âme intellectuelle. Donc, la grâce n'est donc... L'âme est quelque chose de naturel à l'homme, parce que ça fait partie de la nature humaine. Tout homme a une âme. Par contre, la grâce n'est pas surnaturelle. L'homme n'est pas, au moment de la sortie du sein de sa mère, l'homme ne n'est pas dans la grâce. Il n'est sans la grâce du bon Dieu. C'est pour cela qu'il faut baptiser les enfants le plus vite possible, pour que, justement, l'homme, en effaçant le péché originel par la grâce du baptême, trouve, justement, cette grâce habituelle. Mais sans le bon Dieu, eh bien, on ne peut absolument rien faire. Donc la grâce n'est pas naturelle à l'homme, la grâce se rajoute à l'homme, à l'âme, et la grâce est donc quelque chose de surnaturel. Et donc faire très attention, toutes les hérésies, une grande partie des hérésies de Bergoglio sont énormes, notamment sur ce domaine, viennent du fait que manifestement Bergoglio, qui a perdu la foi catholique depuis longtemps, je ne sais même pas s'il l'a jamais eu, en tout cas il ne l'a plus actuellement, ça c'est sûr, Bergoglio François, le pape de Vatican II, actuel, donc Bergoglio, c'est clair dans tout ce qu'il dit, ne croit pas au fait que la grâce du bon Dieu soit quelque chose de surnaturel, rajouté, donné à l'homme par le baptême. Le catholique dit, il faut baptiser les enfants tout de suite, le plus vite possible, pour qu'ils aient la grâce sanctifiante, et que devenant, ayant la grâce sanctifiante, évidemment, ils deviennent enfants de Dieu. Bergoglio dit, tous les hommes ont la grâce. Et donc, puisqu'ils ont la grâce, tous les hommes sont enfants de Dieu, ont la grâce sanctifiante, qu'ils ne peuvent pas perdre, donc tout le monde va au ciel. Pour cela que Bergoglio peut sortir sans sourciller des hérésies énormes, du genre de dire tranquillement, ben, les musulmans sont des enfants de Dieu. Et non, les musulmans ne sont pas des enfants de Dieu, précisément parce qu'ils n'ont pas la grâce sanctifiante, parce qu'il leur manque le baptême. La grâce sanctifiante nous est donnée pour la première fois par le baptême. Celui qui n'a pas le baptême catholique n'est pas baptisé, n'étant pas baptisé, il n'a pas la grâce sanctifiante. Et comme toutes ces choses sont très importantes. On retrouve derrière toutes les hérésies de Bergoglio, de François actuel, et puis aussi derrière les hérésies de Wojtyla, de Ratzinger, on retrouve toujours les mêmes erreurs, à savoir la négation, en fait, la négation du péché originel. Il ne croit plus au péché originel. Et ne croyant plus au péché originel, évidemment, tout s'écroule. Donc, je m'excuse d'avoir fait une introduction peut-être un petit peu longue, mais il faut que les choses soient claires là-dessus. Donc, la grâce sanctifiante est un don surnaturel qui nous est donné sans aucun mérite de notre part. Donc, c'est un don gratuit de Dieu. Qui dit don, dit que ce don est venant gratuitement à la volonté du bon Dieu. Le bon Dieu n'est pas tenu de donner à tout le monde en tant que tel, strictement parlant. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui naissent dans un milieu catholique, dans une famille catholique, peuvent recevoir ce don beaucoup plus facilement que quelqu'un qui naît dans un milieu musulman où il n'entendra jamais parler du vrai Dieu. Donc, cependant, il est évident que lorsque Dieu juge une âme, il va tenir compte justement des dons reçus par cette âme. C'est absolument évident. Mais encore une fois, il faut que les choses soient claires là-dessus. On retrouve le grand dogme de la foi catholique, à savoir que tout le monde ne va pas au ciel, ne vont au ciel que ceux qui sont en état de grâce, qui sont en amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, et cette preuve de l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ est donnée par la grâce sanctifiante. Donc, un dogme de foi, premier dogme de foi essentiel sur ce sommet, toute personne qui meurt en état de grâce a un droit au ciel. On peut dire un droit au ciel parce qu'il a rempli la condition stipulé par notre Seigneur Jésus-Christ, il meurt en état de grâce, donc il a un droit au ciel. Donc toute personne qui meurt en état de grâce est certaine d'aller au ciel. Pas forcément tout de suite. Souvent, dans la pratique presque tout le temps, il va falloir d'abord qu'elle achève sa purification au purgatoire. Mais elle est sûre d'aller au ciel. Les âmes du purgatoire sont sûres d'être sauvées. Deuxième dogme de foi, il est certain qu'une âme qui n'est pas en état de grâce au moment de la mort ne peut pas aller au ciel. Parce que justement, il y a un obstacle, un obex dans son âme. L'âme n'ayant pas l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ, ce don surnaturel, cette habitation en elle de la Sainte Trinité, cette âme ne peut pas être sauvée. C'est impossible. Ou alors il faudrait que Dieu se contredise. Dieu étant Dieu ne peut pas se contredire. Alors il est évident, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est évident, c'est du bon sens élémentaire, que pour étudier le traité de la grâce de saint Thomas d'Aquin, il faut mettre votre cœur dans la poche avec le mouchoir par-dessus. Il est évident que si vous cherchez à comprendre le mystère de la grâce, parce que c'est un grand mystère, le mystère de la grâce tout en utilisant votre cœur d'abord, avant d'utiliser votre intelligence, vous n'arriverez à rien du tout. Vous savez que certains grands saints ont failli perdre la paix intérieure, ont même failli perdre la foi littéralement, parce que justement, ils n'ont pas eu suffisamment, ils voulaient trop chercher à creuser ce mystère. Quand on parle de la grâce, la toute-puissance de la grâce, le rapport entre la toute-puissance de la grâce et le libre arbitre humain, on approche quelque chose qui est en soi un mystère. Un mystère, c'est une vérité qui n'est pas compréhensible totalement. Il n'est pas possible pour nous, ici-bas sur la terre, de comprendre les mystères. Et on ne peut pas comprendre le mystère de l'incarnation, on ne peut pas comprendre le mystère de la rédemption, le mystère de la Sainte Trinité. Donc il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les étudier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les croire, les accepter. Hein. Mais il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles par nous parce que ça dépasse les choses, ça dépasse les pouvoirs de notre intelligence. On ne peut pas comprendre la Sainte Trinité, ni l'incarnation, ni la rédemption. Et donc, il faut que les choses soient parfaitement claires de ce côté. C'est la définition qu'on donne du mystère, d'ailleurs, dans Saint Pilice, vérité, une vérité que nous ne pouvons comprendre parfaitement ici sur la terre, mais que nous devons croire parce qu'elle nous a été révélée par Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, je vous reviens à ce que je vous disais, il y a des grands saints comme par exemple Saint Vincent de Paul, comme aussi Saint François de Sales, qui ont bien failli perdre la foi parce qu'ils ont essayé de trop creuser ce mystère. Comment est-il possible de maintenir les deux choses, la toute-puissance de la grâce du bon Dieu et le parfait libre arbitre que le bon Dieu nous a donné. Comment peut-on maintenir les deux choses dans la même main, si vous voulez? Eh bien, ils s'en sont tirés simplement parce qu'ils sont tombés sur un bon confesseur qui leur a dit « Il faut arrêter de penser à tout ça. Il faut savoir de façon certaine que la grâce du bon Dieu est toute-puissante. Il faut savoir de façon certaine que j'ai en moi le libre arbitre. Et qu'avec la grâce du bon Dieu, le bon Dieu me donnera justement cette grâce dont j'ai besoin pour me sauver. Et qu'il est donc certain que le bon Dieu ne refuse pas sa grâce à celui qui la lui demande avec humilité. » Et on retourne toujours à la même chose, la nécessité de la vertu d'humilité. Si je n'ai pas l'humilité, eh bien, il me manque quelque chose d'absolument fondamental. Donc, j'ai insisté un peu au début de ce cours sur la grâce, sur ces préambules qui sont absolument fondamentaux pour comprendre les choses. Et vous allez voir comment saint Thomas d'Aquin fait bien les distinctions entre les choses qu'on peut obtenir de façon naturelle et les choses qu'on ne peut pas obtenir de façon naturelle. Il faut que la grâce du bon Dieu s'en mêle. Donc, la grâce du bon Dieu est, avec les lois, le principe extérieur, en quelque sorte, de tous nos actes volontaires. La grâce est donc nécessaire pour tout ce qui concerne le salut. Encore une fois, la grâce est quelque chose de surnaturel, qui se surajoute à la nature. Et donc, elle est nécessaire pour obtenir quelque chose qui est au-dessus de nos forces, qui est au-dessus de nos possibilités naturelles, à savoir le paradis. Le paradis, c'est surnaturel, c'est au-dessus de nos forces. On ne peut pas y aller à la force du poignet, encore une fois. Donc la grâce est nécessaire pour tout ce qui concerne le salut. Alors, la cause de la grâce du bon Dieu est en Dieu, et non dans nos propres efforts. On peut prier le bon Dieu, bien sûr. Mais pour prier le bon Dieu, vous avez déjà besoin d'une grâce. Le bon Dieu a dit, celui qui frappe, à qui frappe, on ouvrira, à qui demande, on répondra, à qui cherche, il trouvera. Mais pour chercher, pour frapper et pour demander, il faut déjà une grâce du bon Dieu. Personne ne peut se sauver sans la grâce du bon Dieu, parce que personne ne peut se mettre sur le chemin qui mène au bon Dieu sans la grâce du bon Dieu. Donc, pour résumer, on peut dire un petit peu comme ça, que l'effet de la grâce du bon Dieu, la grâce opérante du bon Dieu, est la justification de l'impie qui s'opère par une infusion de la grâce avec le concours du libre arbitre. Donc le bon Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin. Il est en quelque sorte tenu de nous donner la grâce dans certains cas parce que par nous-mêmes on ne peut rien faire. Mais en même temps, le bon Dieu qui voit bien plus loin que nous, qui sait très bien comment nous allons répondre, s'il voit que, si vous voulez, d'un certain côté, s'il sait par avance que telle personne n'utilisera pas son libre arbitre pour chercher le vrai, eh bien, bon Dieu ne donne pas la grâce. Donc, d'avoir les idées claires sur la grâce aussi permet d'éviter non seulement le modernisme, mais aussi une des racines du modernisme, qui est le protestantisme. Une des grandes différences entre le protestantisme et le catholicisme, c'est justement toute la notion de justification. La justification chez les protestantes n'est pas du tout la même que la justification chez les catholiques. La justification chez les catholiques, elle vient de Dieu. La justification chez les protestants, elle vient de vous-même. Elle vient de vous-même. Donc, en quelque sorte, le libre arbitre pour un protestant, c'est tout. Pour le catholique, au contraire, tout est dans la grâce du bon Dieu qui coopère à notre libre arbitre. Mais tout vient de Dieu, pour le catholique. Pour l'homme, pour le protestant, tout vient de l'homme. C'est la grande, grande différence. Donc on verra un petit peu tout ça. Donc, commençons maintenant que ces préambules ont été expliqués, j'espère compris. Voyons un petit peu maintenant comment justement rentrer dans les détails avec saint Thomas d'Aquin. Donc le traité sur la grâce contient 6 questions. Donc, question 109 à question 114, donc c'est le dernier traité de la prima secundae, première partie de la seconde partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, on va étudier successivement la grâce du bon Dieu par elle-même, sa nécessité, sa nature, les divisions de la grâce, puis les causes de la grâce, et enfin les effets de la grâce, la justification de l'impie et le mérite. Donc, c'est très important de bien comprendre tout ça, parce que celui qui possède l'esprit Thomiste, l'esprit de saint Thomas d'Aquin, à ce moment-là, va posséder encore une fois l'esprit d'Église, et cet esprit d'Église, c'est l'esprit qu'on va retrouver dans tous les décrets du Concile de Trente, justement, sur la grâce sanctifiante. Bon, pour ceux qui n'ont pas les idées très claires là-dessus, je renvoie sur le catéchisme qui est sur le site d'Anne-Marie dont je m'occupe. Donc vous avez dans le catéchisme toute une partie sur la grâce. La grâce et le péché. Et donc éventuellement réécouter ces conférences-là, revoyez un petit peu l'autre polycopie, le polycopie sur le catéchisme lui-même pour avoir les idées claires dans ce domaine. Alors, voyons maintenant donc première question, question 109, première question de traité sur la grâce, question 109, article 1, puis-je, sans la grâce, connaître quelques vérités ? L'homme peut-il, donc sans la grâce, connaître quelque chose de vrai ? Bon, si je vous demande comme ça la question, à brûle pour point, est-ce que l'homme peut connaître quelque chose de vrai par lui-même, sans la grâce du bon Dieu ? Beaucoup de catholiques, je pense, vont me répondre, ben, monsieur l'abbé, avec tout ce que vous venez de raconter, la réponse est évidemment non, on ne peut rien faire sans le bon Dieu, donc on ne peut pas connaître quelque chose de vrai sans le bon Dieu. Eh bien, c'est faux. On peut, l'homme peut, sans la grâce, et par lui-même, parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, pourquoi ? Parce que connaître la vérité, c'est faire usage de la lumière intellectuelle ou la mettre en exercice. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Comme tout homme a une intelligence, tout homme a en lui un moyen surnaturel, un moyen, excusez-moi, naturel justement, qui est une partie de sa nature humaine, un moyen naturel qui lui permet d'atteindre le vrai. Donc, par la force de sa volonté, sans même la grâce du bon Dieu, l'homme, en utilisant cet outil naturel que le bon Dieu a donné à chaque homme, peut parvenir à la vérité. Mais il va parvenir à la vérité de façon difficile, ça va prendre plus de temps, il y a beaucoup de risques d'erreur, c'est mélangé avec beaucoup d'erreurs, c'est quelque chose que peu d'hommes arrivent à faire malheureusement. Parce que les gens ne prennent pas le temps d'utiliser normalement leur intelligence, et puis en plus de ça, ils ont de plus en plus de mal à utiliser l'intelligence que le monde leur a donnée à cause des contrefaçons qui sont autour de nous, à cause surtout du bruit en quelque sorte constant du monde moderne, n'a plus le temps de s'asseoir pour penser. L'homme moderne est incapable de penser, donc il est incapable de méditer par lui-même. Donc, on a déjà vu ça au début de la somme, on va y revenir. Donc l'homme peut, sans la grâce, par lui-même, parvenir à une partie de la connaissance de la vérité. Mais cette connaissance de la vérité est incomplète. Donc il va arriver par lui-même, qu'est-ce qu'il peut faire par lui-même ? J'ai vu tout ça, mais je répète rapidement, par lui-même, le bon Dieu, l'homme peut arriver simplement par les lumières de son intelligence à la connaissance de Dieu, l'existence de Dieu, prouver l'existence de Dieu, l'existence d'un Dieu qui récompense les bons, qui punit les méchants, l'existence d'une âme, et puis plus ou moins ça s'arrête là. Il est évident que pour accepter et pour connaître la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, là il faut passer au niveau supérieur, et là la foi va intervenir. La foi va intervenir pour qu'on ne peut pas accepter en nous l'existence de la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Les trois grands mystères de la foi catholique sont justement que Dieu donne quelque chose de plus pour dépasser le niveau naturel et passer au niveau surnaturel. Alors voilà donc ce que dit saint Thomas. La connaissance de la vérité suppose l'exercice de l'intelligence, donc page 78 sur le polycopie que j'ai devant moi, donc il peut y avoir une différence de page, encore une fois, retrouver le titre, qui en principe doit être plus ou moins en rouge, si mes souvenirs sont exacts, sur le site lui-même, de trouver le titre, question 109, article 1, l'homme peut-il sans la grâce connaître quelque chose de vrai ? C'est là où on en est. Donc, la connaissance de la vérité suppose l'exercice de l'intelligence. Or, dans cet exercice, il y a une sorte de mouvement qui se réfère au premier moteur, c'est-à-dire de Dieu. C'est-à-dire Dieu, à Dieu. Quelque parfaite que soit une nature corporelle ou spirituelle, elle ne saurait accomplir son acte si elle ne reçoit du premier moteur une impulsion qui lui est donnée selon les desseins de la divine providence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Qu'il faut que Dieu n'est pas simplement le premier moteur, la cause de tous les mouvements, ça c'est des choses qu'on peut comprendre de façon naturelle, mais il est encore, comme un être infiniment parfait, le principe de tout être et de toute perfection. Le principe de tout être et toute perfection, cela étant donc l'acte de l'intelligence et de tout être créé, dépend de Dieu sous un double rapport. D'abord, parce que toute créature tient de lui la puissance par laquelle elle agit, ça c'est l'intelligence. Ensuite, parce qu'elle reçoit le mouvement vers l'action. Donc dans ce sens-là, puisque c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, il est évident que je ne peux pas connaître quelque chose de vrai par moi-même sans utiliser mon intelligence qui m'a été donnée par le bon Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, dit saint Thomas, la nature que Dieu donne à chaque créature étant capable d'un acte déterminé qu'elle accomplit elle d'elle-même par sa propre vertu, sans pouvoir atteindre au-delà son action, sans pouvoir étendre au-delà son action que par une force surajoutée, l'intellect humain possède de la sorte une certaine vertu naturelle qui est la lumière intellectuelle même, et cela lui suffit pour connaître les vérités dont il peut acquérir la connaissance au moyen des objets sensibles. Voilà la partie importante dans la démonstration de saint Thomas d'Aquin. Donc deux choses. D'une part l'intelligence dont j'ai besoin pour connaître les choses naturellement. Je vous ai dit qu'on peut simplement par la lumière intellectuelle de mon intelligence, la lumière naturelle de mon intelligence, arriver à la connaissance de l'existence de Dieu. Ça c'est vrai. Cependant, cette intelligence m'a été donnée par Dieu. Donc indirectement, sans l'intelligence que m'a donnée le bon Dieu, je ne peux rien faire. Cependant, naturellement, je peux atteindre cette connaissance de Dieu, par les seules lumières naturelles. Bon. Donc, c'est ce que dit saint Thomas, cette lumière intellectuelle, qui est une lumière naturelle, me permet d'atteindre la connaissance des vérités à partir des objets sensibles. En remontant des objets sensibles, je peux remonter vers le Créateur lui-même, en constatant ici-bas l'existence des faits, je peux remonter aux causes, en utilisant les premiers principes qu'on a déjà expliqués, les principes de causalité, les principes d'identité, les principes de contradiction, etc. Donc, naturellement parlant, l'homme peut, par l'intelligence qui lui a été donnée par le bon Dieu, atteindre la connaissance naturelle de Dieu. Donc ça, ça va contre, je vous l'ai déjà expliqué, le fidéisme de la branche, le fidéisme qui consiste à dire que il faut déjà la foi pour prouver l'existence de Dieu. Non, ça c'est faux. La foi n'est pas nécessaire pour arriver à la preuve de l'existence de Dieu en soi, puisque c'est déjà un pouvoir naturel de l'âme. Bon, mais dès qu'on dépasse cette connaissance naturelle de Dieu, pour le reste, dit saint Thomas, nous avons besoin d'une lumière plus parfaite. Et cette lumière, c'est la lumière de la foi. La lumière de la prophétie, que l'on nomme lumière de grâce, parce qu'elle est surajoutée à la nature. Donc il y a deux lumières, si vous voulez. On va regarder les choses avec deux lumières différentes. D'abord une lumière naturelle, c'est la lumière de l'intelligence, la lumière intellectuelle pure. Et ensuite se rajoute à cette lumière intellectuelle qui est dans le cœur de tout homme qui a l'intelligence, tout homme qui a la nature humaine, se rajoute une deuxième lumière, qui est la lumière de grâce, qui est donc surajoutée à la nature. Donc saint Thomas dit bien que la grâce est quelque chose qui se surajoute à la nature. La grâce n'est pas quelque chose de naturel à l'homme. La lumière intellectuelle est naturelle à l'homme, pas la grâce. La grâce est quelque chose qui se rajoute à l'homme, rajoute à la puissance humaine. Donc sans la grâce, c'est pour ça que le bon Dieu le dit bien, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans la grâce du bon Dieu, on ne peut rien faire. Cependant, sans la grâce du bon Dieu, si on a en nous un processus naturel qui s'appelle l'intelligence, je peux découvrir, prouver l'existence de Dieu. Un païen peut arriver à prouver l'existence de Dieu. Exemple, Aristote. Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, a prouvé l'existence de Dieu. Il a prouvé l'existence d'un premier moteur. Aristote a prouvé l'existence d'une première intelligence. Il a prouvé l'existence d'une première cause. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour ça. Vous voyez une poule devant vous qui vient de pondre un œuf, vous dites, tiens, cet œuf, c'est magnifique ça. Et cet œuf, d'où il vient? Il vient de la poule. Et la poule, avant, elle vient d'où? Ben, elle vient d'un autre œuf qui a donné, c'est la poule qui est devant moi, et l'autre œuf, d'où vient la poule, il vient d'où? Eh bien, il vient d'une autre poule, la grand-mère de cette poule qui est devant moi, qui avait pondu un œuf et qui a donné la poule qui est devant moi. Et puis on peut remonter comme ça, on peut remonter à l'infini, on est bien obligé de s'arrêter au premier œuf. Le premier œuf, il vient d'où? Il vient de la première poule. Et la première poule qui ben, elle vient, elle ne peut pas continuer comme ça à l'infini, donc il faut bien s'arrêter. Ben, la première poule, il a bien fallu qu'elle ait été créée par un premier moteur. Hein? S'il y a du mouvement dans le monde, ce mouvement est causé par quelque chose. D'accord ? Ce passage de la puissance à l'acte, il a bien fallu que ça passe par une première intelligence, et cette première intelligence, cette première cause, ce premier moteur, cette première cause de tout, eh bien, c'est Dieu. Eh bien, un païen, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, comme Aristote, était déjà arrivé à utiliser son intelligence pour prouver l'existence de Dieu de façon naturelle. Et ces preuves, qu'on appelle les 5 voies d'Aristote, sont reprises par saint Thomas d'Aquin. C'est ça qu'on les appelle maintenant les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, parce que c'est saint Thomas d'Aquin qui les a vraiment explicitées et catholicisées en quelque sorte. Mais encore une fois, on peut examiner Dieu avec une lumière purement naturelle, ce qu'on appelle la lumière de la philosophie. La lumière philosophique est une lumière naturelle. La lumière théologique est une lumière surnaturelle. Hein. Donc, qu'est-ce que dit saint Thomas ? Saint Thomas nous explique donc que cette grâce, lumière de grâce, surajoute à la lumière naturelle. Ainsi, dit-il, pour la connaissance d'une vérité quelconque, il faut toujours le secours divin qui met l'intelligence en exercice, mais pour la connaissance des vérités de l'ordre naturel, la lumière surnaturelle n'est pas nécessaire. J'ai déjà expliqué, je reprends ça tout rapidement. Donc, il y a des vérités de l'ordre naturel qui peuvent être compréhensibles que par la lumière naturelle. Donc, dans ce cas-là, la lumière surnaturelle n'est pas nécessaire. Mais cette lumière surnaturelle, dit saint Thomas, est nécessaire pour tout ce qui dépasse la raison naturelle, et spécialement à l'égard des vérités de la foi catholique. Hein? Donc, le mot de saint Paul ici s'exerce, nous dit saint Thomas, nous explique saint Thomas, il va revenir souvent sur ces explications de saint Paul, « Nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est dans l'Esprit Saint. » Ce signifie que toute vérité naturelle ou surnaturelle vient du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables, hein, dit saint Paul, de former de nous-mêmes une bonne pensée. C'est Dieu qui nous en donne la capacité. C'est Dieu qui nous donne l'être et le maintien dans l'être. Parce que c'est Dieu qui nous en donne la capacité et qui marque le besoin réel que nous avons de secours divin, même pour former une pensée, puisque Dieu imprime le mouvement de notre intelligence. Encore une fois, avec notre intelligence, on peut prouver naturellement l'existence de Dieu, mais n'oublions pas que cette intelligence a déjà été donnée par Dieu. Donc c'est un don de Dieu, et sans ce don gratuit de Dieu qui s'appelle l'intelligence, que Dieu donne à tous les hommes, on ne pourrait rien faire. Donc, saint Thomas explique bien, en prenant d'autres textes de saint Thomas. Donc, première chose importante à comprendre, je l'ai déjà dit, l'homme peut, sans la grâce du bon Dieu, par lui-même parvenir à certaines vérités, à la connaissance de la vérité, de façon avec la lumière naturelle. Si vous voulez, il y a 3 lumières. On peut s'expliquer comme ça. Une lumière naturelle, une lumière surnaturelle, qui s'appelle la grâce, et une lumière de gloire au ciel. Au ciel, on comprendra les choses encore mieux. Et même au ciel, on ne pourra pas parfaitement comprendre Dieu tel qu'il se comprend lui-même, c'est évident. Donc au ciel, on aura une connaissance beaucoup plus profonde de la Sainte Trinité, beaucoup plus profonde de l'incarnation et de la rédemption, mais on ne comprendra pas les choses telles que Dieu les comprend. C'est impossible, parce qu'il faudrait Dieu pour cela. Donc saint Thomas a beaucoup, beaucoup creusé ces choses-là. Vous savez que, je l'ai déjà dit souvent, que lorsqu'il préparait la somme, il écrivait la somme, et de temps en temps, il avait certaines questions sur lesquelles il butait, qu'est-ce qu'il allait faire. Il descendait à la chapelle, parfois en pleine nuit, il travaillait beaucoup la nuit, et il descendait à la chapelle, il ouvrait la porte du tabernacle, et puis il mettait sa tête dans le tabernacle, et il la ressortait que lorsqu'il avait eu la réponse à la question. Vous voyez ? Ce qui fait qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup creusé toutes ces choses-là, à tel point que notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit dans une vision sérieuse, une vision magnifique, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à saint Thomas d'Aquin, « Thomas, tu as bien écrit de moi », après qu'il ait terminé le traité sur la Sainte Trinité. « Thomas, tu as bien écrit de moi, que veux-tu pour ta récompense ?» C'est là où saint Thomas a répondu, « Mais rien d'autre que vous, Seigneur. » D'accord ? Donc, connaître la vérité, c'est donc faire usage de la lumière intellectuelle ou la mettre en exercice, ça c'est la lumière naturelle. Donc, si parfaite qu'on suppose une nature, corporelle ou spirituelle, elle ne peut passer à l'action sans être mue par Dieu. Bien plus, ce n'est pas simplement toute motion qui vient de Dieu comme du premier moteur, mais toute perfection formelle relève de lui comme de l'acte premier. Tout vient de Dieu. C'est la boule de billard qui passe devant mon nez. Pourquoi il y a un mouvement, cette boule de billard? Parce une autre boule a heurté la boule qui passe devant mon nez et donc a transmis une énergie à la deuxième boule. La première boule, elle a bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a une queue de billard qui l'a frappée. Et derrière cette queue de billard, la queue de billard qui a frappé la première boule n'a pas agi par elle-même toute seule. Elle a été poussée par une main qui a poussé, qui a donné une impulsion, une force impulsive à cette queue de billard qui a transmis cette force à la première boule de billard qui va ensuite faire bouger la deuxième boule. Mais cette queue de billard, encore une fois, elle n'a pas bougé toute seule. Il y a une main qui a provoqué cette impulsion. Et cette main n'a pas bougé toute seule. Elle a bougé parce que quelqu'un qui a une intelligence a décidé d'utiliser sa main pour donner un coup avec cette queue de billard pour que la première boule puisse se déplacer vers la deuxième boule. Mais cette intelligence de l'homme, eh bien, c'est aussi un don de Dieu. Donc on remonte toujours vers le bon Dieu. Donc, l'intelligence humaine possède une forme, à savoir la lumière intelligible, qui de soi est suffisante pour lui faire connaître certains objets intelligibles. Encore une fois, la grâce est surnaturelle et non naturelle à l'homme, mais il y a une lumière intelligible qui se passe au niveau de l'intelligence. Donc, une lumière naturelle. Ce sont ceux que nous pouvons connaître à partir des choses sensibles. Donc, on part des choses sensibles pour remonter vers les choses au-delà des choses sensibles. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ parlait à ses apôtres, à ses disciples, en utilisant constamment des allégories ou des images, si vous voulez, des paraboles qu'il va utiliser pour leur faire comprendre certaines choses. Il parle de choses que les autres comprennent très bien, que les gens comprenaient très bien, parce qu'ils les voyaient, les touchaient, et il va montrer quelque chose de plus grave, de plus important, qui dépasse justement les choses naturelles. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, ils entendent la petite cloche d'un lépreux qui s'approche, alors tout le monde se sauve pour éviter la contamination. Et les apôtres, ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Quand on parle d'un lépreux, c'est pour eux, ça voulait dire quelque chose de très grave. Ils savaient ce que c'était que la lèpre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ les fait considérer la lèpre du corps, qui détruit le corps, qui ronge le corps. Et de là, il va leur faire comprendre une chose beaucoup plus élevée, en disant, vous voyez, la lèpre est au corps ce que le péché est à l'âme. Vous voyez devant vous cette lèpre qui ronge le corps humain, quelque chose d'épouvantable, qui va tuer tout le monde, avec des souffrances épouvantables, des malformations épouvantables. Et bien, sachez que de la même façon que vous voyez que la lèpre a un pouvoir sur le corps, de même derrière ce corps, il y a une forme de ce corps qui se cache, qui s'appelle l'âme, et il y a quelque chose qui a un pouvoir sur l'âme. Et cette chose qui a malheureusement un pouvoir sur notre âme, à cause du péché originel, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché va justement corrompre l'âme comme la lèpre a corrompu le corps. Et donc, vous voyez, on voit très bien que notre Seigneur part d'une chose matérielle, naturelle, il s'élève à un niveau supérieur. D'accord? Alors, les apôtres ont compris, c'est quelque chose de grave. Et notre Seigneur reprend toujours ces mêmes idées. Prenez par exemple l'histoire des paralytiques. Quand notre Seigneur Jésus-Christ guérit un paralytique, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Alors, tout le monde le regarde, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui lui prend? Et qui a le pouvoir de pardonner les péchés sinon Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous ne voulez pas me croire que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés parce que ça ne se voit pas? Et bien, pour que vous croyiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te donne l'ordre à toi qui es paralysé devant moi, lève-toi, prends ton grabat et rentre dans ta maison. Et l'homme se lève, prend son grabat et rentre chez lui. Alors les pharisiens qui voient ça, les scribes, les gens qui voient tout ça, disent oh, « Alors s'il a vraiment le pouvoir de soigner le corps, et qu'il ne prouve qu'il a le pouvoir de soigner le corps humain, justement en donnant l'ordre à cette personne qui était paralysée de se relever et de prendre son grabat et de rentrer chez lui, c'est donc qu'il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors je vois un pouvoir que je peux constater avec mes yeux, mais derrière, il y a une autre chose encore plus belle et plus grande qui se passe, le pardon des péchés. Donc, c'est ce que dit saint Thomas. Il est d'autres objets intelligibles plus élevés que l'intelligence ne peut connaître si elle n'est perfectionnée par une lumière plus puissante, comme la lumière de foi ou de prophétie. Je répète ces termes, il faut relire ces questions souvent. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ont la somme, après avoir écouté cette conférence, de retourner sur la somme, trouver donc la prima seconde question 109, article 1, et relisez cette question. L'homme peut-il sans la grâce connaître quelque chose de vrai? Et réétudier le texte lui-même de saint Thomas d'Aquin. et au corps de l'article pour bien comprendre le texte. Donc, concluons donc avec pour ce premier article cette lumière de grâce est donc supérieure à la lumière naturelle de la raison, de l'intelligence. Hein. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Cette lumière, on l'appelle la lumière de grâce parce qu'elle est surajoutée à la nature. Mais il n'est pas besoin, dit saint Thomas, dans tous les cas, pour connaître la vérité, d'une nouvelle illumination surajoutée à l'illumination naturelle. Encore une fois, l'intelligence a une lumière naturelle et par l'usage de cette lumière naturelle, l'intelligence peut arriver à prouver l'existence de Dieu de façon naturelle. C'est seulement dans les cas qui dépassent la connaissance naturelle que ce besoin existe d'une lumière qui se surajoute à la nature et qu'on appelle une lumière de grâce, à savoir la lumière de la grâce sanctifiante. On peut prouver l'existence de Dieu avec la lumière naturelle de la raison, mais pour prouver, pour comprendre, pour accepter la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption, bien, il faut quelque chose de plus qui se rajoute, à savoir la lumière de la foi, la lumière de la grâce qui se surajoute à la chose. Hein. De là vient donc, dit saint Thomas, que la lumière naturelle innée dans l'âme est elle-même une illumination de Dieu par laquelle il nous éclaire pour connaître les objets qui appartiennent à la connaissance naturelle. Pour cela, aucune autre illumination n'est requise, mais seulement pour les objets qui dépassent la connaissance naturelle. Donc il y a deux niveaux, un niveau purement naturel et au-dessus un niveau surnaturel, niveau de la grâce. Donc, vous voyez que saint Thomas d'Aquin prépare déjà le terrain ici-bas avec ces articles sur la grâce. Il prépare le terrain pour bien nous mettre. Il prépare le terrain avec la vertu d'humilité. Donc, si je n'ai pas cette vertu d'humilité, eh bien, je ne peux pas comprendre le traité sur la grâce. C'est absolument impossible. Donc, encore une fois, la porte qui permet d'ouvrir l'intelligence au traité sur la grâce, c'est la porte de l'humilité. C'est pour ça que les orgueilleux sont capables de comprendre l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la grâce. Parce que justement, ils manquent quelque chose. Ils ne peuvent pas rentrer parce que la porte est fermée à clé. Et la porte est fermée à clé, pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'orgueil et que donc l'orgueil détruit l'humilité. C'est ou l'humilité qui ouvre la porte ou l'orgueil qui ferme la porte. Alors, bon, je m'excuse, j'étais un petit peu compliqué peut-être dans cette introduction au traité de la grâce. Donc, nous avons terminé le premier article de la première question de la grâce. Vous voyez qu'on va passer un temps assez considérable justement sur la grâce parce que précisément ce traité est un des plus importants de la somme. Non seulement c'est un des plus beaux, mais c'est aussi un des plus importants. Nous allons terminer par une prière à la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.